Donc on va recommencer ce troisième jour de bruit de langue, mais en fait le deuxième parce qu'hier on était en manif. Vous avez reçu sans doute le programme, et quand même, comme il y a un petit changement, je voulais le redire maintenant. Donc on va d'abord recevoir Hélène Vignal pour nous et Sybille Lajus, qui elles vont dialoguer de ce livre autour de ce livre qui a été fait donc sur la parentalité étudiante à partir d'ateliers, de discussions avec des parents étudiants l'année dernière. Et puis ensuite donc Pierre Charentus, donc qui est illustrateur et qui fabrique en ce moment, dessine une fresque à la maison des étudiants. Donc on inaugurera jeudi à 20h avant le concert immersif Shangri-La. Donc n'hésitez pas à prévoir ce moment-là, qui sera un moment convivial, apéritif, tout ce qu'on veut, et où on verra le résultat de cette fresque donc faite sur une semaine pendant Bruit de langue. Puis on recevra Catherine Dorion, autrice québécoise, qui ça fait 3 ans en fait qu'elle est là, mais en visio. On fera un entretien avec elle aujourd'hui. Et puis, comme Gérard Gavary pouvait pas venir et que c'est l'intérêt d'avoir des auteurs et autrices pleines de ressources, elle avait fait un film récemment qui s'appelait Renouer, qu'on a beaucoup aimé avec Amanda et Mallory. On s'est dit qu'on allait projeter le film. Donc c'est un film de 52 minutes. On projettera le film après et on dialoguera autour du film tous ensemble. Demain, on a fait la même chose un petit peu mais différemment avec Arnaud Bertina, qui, puisque la rencontre autour de Bernard Manciette s'est annulée, j'ai découvert à cette occasion, en parlant avec Arnaud, qu'il venait de faire un film qui s'appelle L'héritage de Jack London, à partir d'entretiens avec des personnes d'horizons différents. Donc on s'est dit qu'on allait projeter le film donc demain à 17h. Voilà, ça c'est les changements par rapport au programme que vous avez sous les yeux. Et je laisse la parole à Sylvie.
Bonjour à tous et toutes. Donc là, je prends la parole. Alors, j'ai mis mon badge Université de Poitiers pour cela. Non pas avec ma casquette d'enseignante et lettres et langues, même si c'est d'abord comme cela que j'ai pu connaître et apprécier vivement le travail d'Hélène Vignal, mais avec une casquette d'abord de vice-présidente en charge de la culture pour l'Université de Poitiers. Alors juste, puisque là, on est dans le cadre du festival Bruit de langue, vous voyez, Bruit de langue est porté par l'association culturelle ainsi que les étudiants du Master Livre et Médiation, mais comme Stéphane l'a rappelé à l'ouverture du festival, il y a un gros soutien de l'Université de Poitiers. Je pense que vous êtes plusieurs à avoir pu profiter de ce super moment autour d'Ouragan et lundi soir, et donc jeudi soir, dans le cadre de Campus Sonore, en partenariat donc avec Bruit de langue, il y a également le concert autour de la bande dessinée, concert immersif Shangri-La. Donc on vous attend nombreux et nombreuses, puisque avant, donc Stéphane l'a dit, on aura le plaisir de voir la fresque de Pierre Charentus. Alors je reviens à ce recueil, alors non, c'est celui-ci sur la parentalité étudiante. Alors d'abord quelques mots de contexte, et puis ensuite c'est bien sûr Hélène Vignal qui vous en parlera de manière beaucoup plus pertinente. Mais d'abord, vous dire la volonté politique qu'il y a derrière ces recueils. Donc vous voyez, j'en ai deux autres qui sont en consultation. Quoi, ils n'y sont pas puisque c'est moi qui ai les exemplaires, mais ensuite on les remettra en consultation sur place, sur le stand tenu en librairie. Donc en fait, le premier recueil qui a été fait avec une vice-présidente différente, Isabelle Lamotte, c'était Mon confinement et moi, collecte de la parole d'étudiantes et étudiants. Donc Mon confinement et moi, je n'ai pas besoin de vous en dire plus. Déjà, il y avait une volonté de travailler aussi sur un livre avec une prise en compte graphique. Voilà, vous pourrez regarder. Pour celles et ceux qui seraient peut-être venus à la journée Portes ouvertes, vous auriez pu retrouver les noms qui étaient en portrait pris sur le vif également. Donc voilà, une artiste BD avec laquelle on aime travailler là. Le deuxième recueil, donc en fait le service culture de l'université de Poitiers, à ce moment-là sa directrice Céline Magnan m'a montré cet ouvrage sur lequel il y avait des retours excellents en me disant voilà, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que ça pourrait pas être intéressant de faire collection à l'université de Poitiers, et j'ai été enthousiaste, et donc voilà, donc ça a été une de mes premières décisions en tant que vice-présidente, c'est-à-dire de lancer une collection. Le thème s'est imposé assez facilement autour des transidentités, puisque là on sentait un vrai besoin autour de ces questions, avec une volonté là de s'appuyer sur des ateliers d'écriture qui avaient été encadrés par une étudiante, quelqu'un qui venait juste de terminer son mémoire sur ces questions, sous la direction de Stéphane Bicchiello, Manon Simoni, et aussi toujours une volonté d'illustration avec quelqu'un qui avait été en résidence BD ici, Morgane Parisi. Donc, question autour du troisième thème, et là encore, il s'est imposé assez facilement. Alors, j'étais à ce moment-là avec le vice-président étudiant en fonction à cette époque, et nous étions venus à l'invitation du service vie étudiante et vie associative, qui est représenté par Manon Bahuot. Manon, si tu veux bien juste te retourner pour que ensuite les gens t'identifient, parce que Manon n'a pas souhaité venir ici, puisque elle sait que nous sommes deux grandes bavardes et que voilà, on risquait de lui laisser assez peu la parole, mais pour de bon, pour celles et ceux qui s'intéressent aux questions de médiation culturelle, c'est elle qui sera la personne ressource, donc n'hésitez pas en discussion informelle, elle en est d'accord à lui poser des questions ensuite ou même pendant ce temps. Ses collègues organisent de manière régulière le dimanche, je tiens à le signaler parce que c'est le moment qui convient le mieux à ses parents, donc des repas qui permettent aux étudiants parents de se retrouver. C'est dans ce cadre que moi j'ai été amenée à rencontrer ce public à la fois étudiant comme les autres et quand même avec des contraintes spécifiques. Et là, que ce soit Aurélien Brossard ou moi-même, nous avons été franchement choqués des témoignages qui nous ont été racontés. Et donc là, aujourd'hui c'est la journée du 8 mars, donc évidemment on pense à toutes ces femmes, évidemment, on est un peu traumatisés à Poitiers en raison du féminicide dont on a eu connaissance tout récemment. Donc voilà, cette journée, je pense qu'elle prend une dimension. On sait bien qu'une date, c'est peu de choses, mais voilà, ça reste important. Ce qui m'avait marqué d'emblée, c'était que avec les différents parents avec lesquels on a discuté, déjà, on voyait une grande différence entre les femmes et les hommes. Il y avait un homme étudiant qui témoigne d'ailleurs et qui, lorsqu'il évoquait son statut de papa, recevait de l'équipe pédagogique un super accueil. On lui demandait même pas de justificatif pour ses absences. Il y avait une relation de confiance d'emblée qui s'est instaurée. Alors que pour les mamans, c'était d'une autre violence, avec des équipes pédagogiques qui pouvaient soit, je pense, avec maladresse, soit carrément avec une forme de malveillance peut-être, ou de jugement très marqué, formuler des choses du type « mais c'est voulu, mais vous prenez vos responsabilités, etc. etc. » Donc en fait, on s'est dit, et ce que je trouvais terrible aussi, c'était qu'il y avait évidemment un ressenti très fort de la part de ces étudiantes, mais il y avait aussi intériorisé une espèce de résignation. Le fait de se dire qu'après tout, c'était peut-être normal que, à partir du moment où elles n'étaient pas tout à fait dans les clous de nos normes sociales, ben c'était peut-être normal de se heurter à ce genre de réaction. Et donc, c'est ça qu'on a eu envie de contrer. C'est évidemment présomptueux, mais si on ne croit pas à ce genre de démarche, voilà, on abandonne tout. Et donc, au contraire, on est dans des moments où on espère bien s'inscrire dans du pouvoir d'agir. Donc voilà, c'est là où on s'est dit, ces collectes de paroles étudiantes, bien sûr, c'est à la parentalité étudiante qu'il faut le consacrer, pour dire en tout cas que ces étudiantes, ces étudiants-parents sont les bienvenus dans nos formations, qu'il y a des contrats d'aménagement d'études pour cela. Et vous voyez bien, en termes d'égalité, on sait très bien qu'autrement, en termes de poursuite d'études, le plus souvent, ce sont les femmes qui arrêtent cela. Donc, vous voyez, en termes d'égalité, etc. Donc, ça me paraissait important de faire cette introduction avant. Et donc, avant de laisser la parole à Hélène, je voulais juste dire que comme c'était la journée du 8 mars, on a des collègues référents égalité qui ont préparé un super document autour de MeToo. Et comme donc tout le monde l'a reçu sur son adresse Univ, si vous êtes étudiant ou personnel de lettres et langues. Mais je me suis dit que ça n'était pas le cas de tout le monde, donc j'ai fait des tirages papier pour celles et ceux qui souhaitent un exemplaire aussi. Ça me paraît également en écho avec cette problématique. Alors, ça, c'était pour la thématique. Alors, pourquoi Hélène ? Parce que voilà, depuis que nous avons rencontré Hélène, l'équipe pédagogique est tombée en amour avec cette personne incroyable qui est d'une générosité dingue dans ses cours. On a assisté, elle nous a laissé aussi entrer dans ses cours et que voilà, Poitiers, c'est la chance d'un petit territoire et du coup, on a des échos voilà, qui montrent à chaque fois toute la bienveillance et le professionnalisme d'Hélène Vignal. Et donc, dans un de ses cours, justement, Hélène Vignal nous avait raconté, nous avait lu le premier texte publié dans une revue de sociologie qui était un portrait. Et c'est ça qui a fait germer l'idée de lui confier des portraits, parce que pour les étudiants-parents, on s'était dit que la forme de l'atelier d'écriture était compliquée pour des questions de temps, mais aussi de pudeur. Vous voyez, sur les transidentités, bien sûr, on est sur des sujets de pudeur, mais il y a une dimension très militante et finalement une volonté de témoigner. On était vraiment dans une... Finalement, on allait dans le sens du vent avec les transidentités. Alors attention, un vent qu'il faut continuer à faire grossir, hein, il est loin d'être acquis, mais vous voyez qu'on se refait un peu sur un thème aujourd'hui qui, pour des gens comme nous, est fédérateur. Sur la parentalité, non, c'était une zone d'ombre qu'on souhaitait éclairer. Donc, c'était une démarche un petit peu différente. Et c'est là qu'on s'est dit que Hélène Vignal serait une personne ressource. Et donc, juste pour dire que l'objet que vous pouvez avoir entre les mains correspond totalement à nos attentes. Donc, un énorme merci à Hélène. Et maintenant, je me tais, promis.
On va croiser les merci, parce que c'est vrai que c'est une chance énorme de pouvoir bénéficier d'un dispositif littéraire comme celui-là, c'est-à-dire la confiance d'une institution, une grosse institution, l'université, qui, pour la première fois en 20 ans de carrière d'écrivaine, me paye pour un travail d'écriture. Il faut savoir que les écrivains sont payés par un intéressement à la vente de leurs œuvres, mais très rarement pour leur travail de création. Et un énorme merci à chacune des femmes et à l'homme que j'ai interviewé. On va dire que le féminin l'emporte, hein, parce que voilà. Je les ai toutes interviewées à leur domicile où elles m'ont reçue, parfois très longtemps. Dans la vie qu'elles ont, c'est pas rien d'avoir quelqu'un chez soi pendant 4-5 heures qui pose des questions, qui écoute. Et un immense merci à elles, parce que ce qu'elles ont confié de leur vie et de leur parcours et de leur réflexion est d'une immense générosité. Mais vraiment, c'est pas facile de raconter ce qui est raconté dans ces portraits. C'est pas facile de donner de soi l'image de quelqu'un parfois vraiment sur le fil, au plan psychique, au plan énergie, au plan équilibre, au plan, sur tous les plans en fait, financiers. Et elles l'ont fait, mais alors avec, elles me connaissaient pas, hein. Enfin, je veux dire, on s'est croisés quelques minutes avant notre premier entretien. Le dispositif était un dispositif que j'ai souhaité les enregistrer avec leur accord, évidemment, pour que mon regard soit libre. C'est-à-dire que pour pas être les yeux baissés sur une feuille. Et donc elles ont accepté toutes d'être enregistrées. Et en fait, je n'avais pas vraiment un questionnaire sociologique. Hein. On est parti comme ça sur ce qu'elle pensait important à livrer et dans l'ordre qu'elle le souhaitait. Et donc, ce sont des entretiens qui ont duré entre 1h30 et 5h, je crois, et dont, voilà, dont il s'est agi ensuite de, pour moi, dans le dispositif littéraire, de laisser émerger une forme de fil rouge pour chacune d'entre elles, qui est vraiment très subjectif, qui est ma lecture du récit. Qu'elles m'ont livré et qui est ce que presque sensoriellement j'en retirais dans le récit. Voilà. Donc ça peut être un personnage imaginaire pour l'une d'entre elles. Enfin, il n'est pas si imaginaire que ça, mais l'épuisement était tellement important pour cette femme que il me semblait le voir dans l'espace autour d'elle. Et donc j'en ai fait effectivement, un cinquième membre de la famille que j'ai appelé Monsieur Épuisement. Pour une autre, ça a été la question de la petite voix et de l'instinct qui peut revenir comme ça à des moments cruciaux dans l'existence. Enfin voilà, à chacune, en fait, à un moment donné, un fil rouge s'est dégagé, un thème, quelque chose pour moi qui avait le pouvoir de contenir tout leur récit. En fait, et donc c'est ça que j'ai utilisé ensuite pour écrire et pour sélectionner aussi leurs paroles. C'est-à-dire que dans les textes, il y a aussi des paroles reproduites qui sont parfaitement identifiables dans la typographie utilisée. Hein. Voilà. Donc ça c'est pour le dispositif. Il y a aussi une chose, évidemment, qui est extrêmement importante dans un travail comme celui-là, c'est la question de la visibilité ou de la transparence de la rédactrice, de l'autrice. Et je ne souhaitais absolument pas faire semblant d'être transparente, ce qui me semblait littérairement peut-être un peu malhonnête. Ce qui m'aurait semblé malhonnête, en tout cas, dans ma façon d'approcher les choses. Donc, je souhaitais, non pas pour me mettre en avant, mais je souhaitais apparaître pour que la dimension subjective du portrait soit parfaitement lisible pour le lecteur. Il s'agit bien d'une rencontre. Il s'agit bien de 8 rencontres à des instants donnés, et pour elle et pour moi. Et donc, c'est cette dimension unique, cet instant-là. Peut-être que si on s'était rencontrés la veille ou le lendemain, l'entretien aurait été complètement différent, j'en sais rien. Donc l'idée, ce n'était pas du tout de disparaître, mais bien dans l'écriture, de bien montrer qu'il y avait 2 subjectivités, en fait, face à face. Et puis la question de ce verbatim, donc de ces propos reproduits qui ne sont pas les miens, donc qui ne sont pas mon écriture, mais qui sont leurs paroles à elles, qui sont forcément très légèrement remaniées. Quand je dis très légèrement remaniées, c'est que je vais peut-être supprimer quelques répétitions, je vais peut-être ajouter des doubles négations quand il n'y en a pas. Je vais peut-être corriger une petite erreur syntaxique ou mettre dans une forme écrite quelque chose qui était dans une forme orale. Donc évidemment, je vais trafiquer un peu la parole qui m'a été confiée. Donc c'est pas neutre. C'est pas neutre du tout, ça soulève beaucoup de questions et on s'était posé la question avec Manon Bahuot qui a piloté ce travail pour la Maison des étudiants, s'était posé la question de la relecture avec moi. J'étais plutôt assez défavorable à une relecture puisqu'on était sur un travail de création, on va dire. Et puis, plus on avançait dans ces entretiens, plus c'est devenu évident en fait, qu'il fallait cette relecture. Et donc, chacune l'a faite avec des corrections d'erreurs. Hein. Alors là, pour le coup, ça pouvait être des erreurs de date, ça pouvait être des choses que j'avais mal comprises, des erreurs de lieu, des erreurs de chronologie. Il y a certaines histoires qui sont tellement complexes et tellement incroyables que j'ai dû faire des frises. J'ai dû faire vraiment des frises chronologiques pour essayer de comprendre comment l'arrivée de ces enfants s'emboîtait dans tout le reste des vies. Et donc forcément, bah, j'ai fait quelques erreurs, donc qu'elles ont rectifié. Et pour certaines, s'est posée également la question de l'anonymat, parce que soit elle l'avait demandé, soit je l'ai souhaité en accord avec aussi l'équipe de la Maison des étudiants à la lecture de certains témoignages, de certains récits. Il nous a semblé que même si l'intéressé n'avait pas demandé l'anonymat, il nous revenait de le lui préconiser. Voilà, pour des raisons sur lesquelles je ne m'étendrai pas ici. Mais c'est le choix que nous avons fait, qui a été accepté, que nous n'avons imposé à personne, hein, mais ça s'est imposé, en tout cas dans un des cas, ça s'est imposé, voilà. Voilà, je ne sais pas ce que je peux dire d'autre, je ne sais pas si vous avez des questions ou...
Alors, je ne sais pas, j'ai bêtement pas pris de montre, mais on avait le temps que tu lises un tout petit bout, peut-être ? Oui, c'est bon ? 10 minutes, ok. Donc, peut-être qu'il y aura après la lecture, il y aura peut-être des questions, okay. Mais voilà, si tu as un extrait.
Tu ne sais pas te protéger ou quoi ? Quand, comme Adélaïde, on a son deuxième enfant à 23 ans, on ne s'habitue pas à ce jugement sous-jacent. Derrière le regard surpris de ses interlocutrices, à la fac comme ailleurs. Bien sûr que si elle connaît la protection, Adélaïde, elle a même dû devenir experte en la matière. Elle a appris toute petite à ne pas trop s'exposer, à ne pas raconter sa vie. Alors qui peut juger ses choix ? Elle a fait ce qu'elle avait à faire et si c'était à refaire, elle ne changerait rien. Elle revient tout juste des épreuves du CAPES. Quand elle me reçoit dans sa bulle, une maison dans le village de M, à une dizaine de kilomètres de Poitiers. C'est là qu'avec Bastien, elles ont installé leur petite famille 3 ans auparavant. Une maison avec tout ce qu'il faut, une chambre pour Noah, 4 ans, une chambre pour Elina, 2 ans, un bureau pour elle, un grand salon, et surtout ce vaste jardin pour que les enfants s'ébattent en toute sécurité. Le loyer est un peu cher, mais il y a de la surface. Leur refuge, leur bulle, c'est ici, et puis les aides de la CAF les soutiennent. On s'installe toutes les deux sur la terrasse à l'ombre d'un grand noyer. Une petite piscine gonflable trône sur la pelouse. Elina dort dans sa chambre, Noah est à l'école. Adélaïde est épuisée. Toute la pression de son année est en train de retomber. Les oraux du CAPES lui ont laissé un goût d'échec. Elle a peur d'être recalée une deuxième fois. Pourtant, depuis un an, elle enseigne dans un collège de Poitiers en alternance. Elle a une classe de 6e et les choses se passent magnifiquement bien. Adélaïde. C'est une expérience qui m'a donné confiance en moi. Ça s'est super bien passé dans la classe. Elle pense avec appréhension à ce qui l'attend en cas d'échec. Elle n'a pas le courage de rempiler une 3e fois. Bien sûr, elle pourrait être contractuelle, remplaçante peut-être. Mais ce n'est pas ce qu'elle veut. Ce n'est pas pour être précaire de l'éducation nationale qu'elle s'est donné tant de mal. Elle voudrait avoir un poste dans la région. Avec les 2 enfants et le fait qu'elle s'est mariée, elle espère avoir ses chances. Seulement, il faut un concours et ça, c'est pas gagné. Adélaïde. Dans le mix famille-études, tu peux jamais lâcher prise complètement. Ce qui m'a le plus pesé, c'est que quand tu révises, tu ne penses qu'à tes enfants. Et quand tu es avec eux, tu ne penses qu'à tes révisions. C'est ce qui a été le plus compliqué pour moi dans cette situation. Un jour, Noah m'a dit « Tu me manques, maman. Tu peux pas savoir le mal que ça m'a fait d'entendre ça d'un petit de 4 ans. » Cela fait 6 ans qu'elle est étudiante, dont 4 ans à mener cette double vie de maman en études, s'arrangeant comme elle peut de la culpabilité qui la guette à tous les coins de page, du manque de sommeil et du manque d'empathie autour d'elle. Enceinte de Noah, Adélaïde comprend très vite qu'il lui faut mettre des protections autour d'elle, de son enfant, de son couple. Bastien est alors militaire, il est en Irak pendant toute la grossesse. Adélaïde est très seule, mais elle apprend. Elle apprend d'abord à se protéger de sa propre mère, qui s'amuse à l'effrayer en lui disant que Bastien peut mourir en Irak, qu'Adélaïde peut mourir elle aussi, et qu'alors son enfant n'aura plus de parents. Elle prend ses distances progressivement avec cette maman qui, dit-elle, n'est pas faite pour ça. Jusqu'à couper totalement avec elle quand elle voit son fils malmené à son tour. Elle apprend qu'il faut se protéger aussi de certaines enseignantes, à commencer par sa responsable de L2 qui, alors qu'Adélaïde l'interroge sur la façon dont elle peut organiser sa scolarité avec la grossesse, lui répond « Ouais, bah essaye déjà d'avoir ton premier semestre et on verra si tu as toujours envie de continuer tes études. » Dans le regard de cette femme, Adélaïde a l'impression d'être comme un cassos. Après cet échange cinglant, elle rentre chez elle, se sentant bête et humiliée. À partir de là, elle comprend qu'elle doit se débrouiller seule et ne rien attendre des autres. Elle en vient même à cacher sa grossesse. Comme une gamine qui a pris une décision débile. Bastien est loin d'elle, elle résiste comme elle peut et ce qui devait être sa plus grande joie devient honteux. Mais c'était voulu ? À l'écoute de ces témoignages, je suis stupéfaite du naturel avec lequel cette question à la culpabilisation sous-jacente revient dans les conversations. Qu'est-ce qui fait que chacun se sent en droit de détenir cette information pourtant hautement intime au motif que la mère est jeune et en études ? Qui se permettrait de la poser à une femme de 35 ans en couple avec une situation professionnelle ? Et surtout, comme le dit Adélaïde, qu'est-ce que cela change aux besoins de cette femme ? Seule et chamboulée, peu soutenue par sa famille, Adélaïde n'assume plus sa grossesse. Elle cache son ventre sous des vêtements amples le plus longtemps possible. Quand les autres s'en aperçoivent, pour échapper au regard et au jugement, elle finit par laisser croire, à demi-mot, que ce bébé n'était pas prévu. C'est la posture qui la protège le mieux, celle qui ferme la porte au jugement, aux questions et aux regards lourds de sous-entendus. Quelques semaines avant d'accoucher, elles demandent leur poli aux profs pour pouvoir suivre leur cours à distance. Tous te refusent et l'invitent à s'arranger avec ses camarades de promo. Mais elle est mal à l'aise, c'est un gros service à demander pour une jeune femme qui s'est mise en protection absolue. Elle n'a pas forcément la force d'essuyer des refus. Heureusement, il y a quand même un étudiant de L3 qui accepte de lui donner tous ses cours de L2. Grâce à lui, elle arrive à travailler tranquillement chez elle. Son médecin accepte de la mettre en arrêt maladie, ce qui lui permet de travailler depuis son domicile et d'éviter les cours. Noah naît en mars 2018. En juin, Adélaïde retourne à la fac pour passer les rattrapages.
Alors, je ne savais pas qu'Hélène choisirait cet extrait, mais vous voyez, ça fait écho à ce que je disais un peu avant. Et ben, vous voyez bien que l'idée, c'est de faire évoluer tout ça, parce que dans d'autres témoignages, ce qui est intéressant, dans celui-ci, ça apparaît, mais moi, en tant qu'enseignante ici, en plus, ça me rend malade, quoi que des équipes pédagogiques puissent réagir comme ça. Mais en réalité, chez les étudiantes et étudiants aussi, l'accueil n'est pas facile. Dans d'autres témoignages, ça se voit aussi. Donc c'est là que ça interroge vraiment sur les normes dans lesquelles on vit et on fait vivre les gens.
Oui, voilà, parce que moi, il y a quand même des choses qui m'ont évidemment... qui sont venues bien taper dans mon féminisme, quoi. Enfin, il y a beaucoup de choses hein, dans ces témoignages sur la situation des femmes. Des femmes jeunes, des femmes jeunes étudiantes, des femmes jeunes étudiantes étrangères, des femmes jeunes étudiantes en situation de monoparentalité, des femmes jeunes étudiantes étrangères en couple. Enfin bon, tous les critères viennent se cumuler pour en faire des espèces de stigmates. Voilà. Et alors, il y a quand même un témoignage où les enseignants ont été chouettes, on peut le dire quand même. Mais c'est vrai que ce sont des femmes, des petites sœurs pour moi, quoi, qui se retrouvent dans une situation de solitude qui m'a profondément bouleversée. Il n'était pas rare en réécrivant les lignes vraiment que je sois un peu submergée par l'émotion, hein, parce que on mesure assez mal l'intensité en fait de leur solitude. Parce que en effet, comme dans le témoignage d'Adélaïde, quelquefois la dissimulation, le silence sont les seules façons en fait de slalomer entre les jugements sociaux, et que finalement on a des femmes qui sont en âge de procréer et qui procréent, voilà, et que c'est pas un scandale, c'est même plutôt chouette, et c'est même plutôt un grand bonheur. J'ai eu la chance de les voir quasiment toutes avec leurs enfants qui sont, voilà, et c'est du bonheur que j'ai vu, hein, en fait, voilà, c'est de ça dont on parle. Mais les conditions ont été sacrément sacrément sportives, et chapeau à elles, chapeau.
Clara, vous nous dites que c'est l'heure, c'est ça?
C'est ça.
Donc, merci beaucoup, Hélène. Alors, on n'a pas merci parlé du travail de Christian Corbinus aussi, qui au-delà de la portée, disons-le, militante qu'on souhaite à ce livre et de la reconnaissance à ces mères étudiantes que l'on souhaite porter, ça reste un beau livre. Voilà.